Alléluia. Juste avant qu'on commence, j'aimerais qu'on puisse vivre comme juste un acte prophétique. Dans la Bible, il y a des actes prophétiques. Le premier qui me vient, enfin, c'était presque un acte de foi à un moment donné dans l'Ancien Testament. L'eau était amère et ils ont lancé, Dieu a dit à Moïse, lance un bout de bois et l'eau est devenue pure, ils ont pu la boire, elle était potable. Alors ce n'est pas le bois qui avait quelque chose de miraculeux, mais c'était comme un acte qui amenait vraiment aussi la pureté de Dieu. C'était un acte d'obéissance, un acte prophétique, c'était même un type d'avance qui préfigurait la croix. Et des fois, il y a des choses comme ça qu'on peut faire physiquement et puis qui a un impact sur le monde spirituel. Le monde spirituel et le monde physique sont liés aussi. Et la seule chose j'avais à cœur quand on a chanté avant, vraiment, cette pluie de guérison qui vient sur notre nation, sur notre ville, sur notre église, sur nos vies. C'est une pluie qui vient. Et vous avez déjà vu quand l'atmosphère est un peu confuse, quand la pluie vient, c'est comme si la poussière, le pollen, tout à coup, on voit super bien. Et on voit super loin parce que la pluie, elle a comme nettoyé l'atmosphère. Et j'aimerais qu'on puisse encore, avant que je parle, on puisse accueillir cette pluie encore, cette pluie du Saint-Esprit, une pluie de guérison qui bannit la peur, qui bannit la crainte, qui nous permet vraiment de voir aussi plus loin, de voir plus clair. Et on a envie de cette pluie. Et j'avais envie comme acte prophétique qu'on fasse juste ce petit exercice qu'on connaît, qui est presque enfantin, mais qu'on puisse, pour ceux qui désirent, vous êtes, chacun est libre, on a envie qu'ici dans cette église, chacun est libre de faire ce qu'il fait, ce qu'il a envie de vivre. On n'est pas tous obligés d'être debout dans la louange ou d'être debout sur sa chaise ou bien d'être couché par terre. On a envie qu'on puisse être libre, mais j'avais à cœur qu'on puisse vivre ensemble comme un acte prophétique de cette pluie qui arrive, toujours plus forte, et puis qu'on veut la saisir, que ce qu'on va vivre physiquement, ça soit une réalité spirituelle. Alors, je propose qu'on tape juste avec un doigt sur nos mains. Vous connaissez ce petit jeu. Et nous entendons cette pluie, Seigneur, et nous voulons accueillir cette pluie qui arrive. Mais Seigneur, ici, on aimerait te dire qu'on a faim et soif d'une plus grande pluie. Et on peut taper avec deux doigts. On a faim et soif de plus, cette pluie de guérison sur notre ville, sur notre nation, sur nos vies. On peut rajouter un doigt, une pluie de guérison. Viens Seigneur, tu purifies l'atmosphère et nous saisissons ça comme un acte prophétique. On rajoute encore un doigt et nous pouvons même applaudir pleinement. Nous accueillons cette pluie qui vient toucher, ôter toute peur, toute crainte, une pluie de réveil, une pluie de guérison sur notre nation, sur nos vies, sur cette église, sur cette ville, sur cette région. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et on saisit que ce n'était pas juste un petit exercice de se taper dans les mains, mais on saisit ça par la foi dans l'esprit, que cette pluie, elle vient, qu'elle tombe et que quelque chose se passe. Amen. Alors, il n'y a rien de magique, c'est comme le bois que Moïse a lancé dans l'eau de Mara. Il n'était pas magique, mais quelque chose s'est produit. Et des fois, on fait quelque chose de physique et il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. En tout cas, je suis tellement encouragé de ce qu'on peut vivre ces derniers temps. Je sens vraiment une faim, une soif dans l'esprit grandissante. Je sens aussi que Dieu désire agir toujours plus. Et c'est vraiment ce qui brûle dans notre cœur, de ne pas juste vivre des cultes, des groupes ressources qui sont encourageants, mais vraiment être une église, une famille d'hommes et de femmes qui ont faim et soif de plus de Dieu. Et on a pu le voir dans nos derniers messages, de vraiment que c'était axé sur le fait de mettre notre focus sur Dieu, sur les promesses que Dieu a pour nous, sur le pays promis, de regarder davantage sur le pays promis et les promesses que sur les géants. Et petite parenthèse, alors que je pensais à ça, les géants, des fois, on s'imagine qu'ils sont dans le pays des ténèbres, mais les géants, ils étaient dans le pays promis. Ils étaient dans le pays promis. Et c'était le pays qui était promis, mais il y avait des géants. Et pourtant, c'était le pays à saisir, à méditer, mais ce n'est pas mon message ce matin. Mais en regardant vraiment à Dieu, à ce qui est puissant, en se souvenant déjà de tout ce qu'il a fait, je parlais sur le fait de se souvenir dans nos vies, dans l'Église, comme j'ai pu le prêcher dernièrement, notre foi, elle est boostée et ça nous donne vraiment un élan pour aller de l'avant. Quand Dieu restaure, quand des miracles se produisent, quand des exaucements de prières arrivent, et ce que je constate quand ces choses se passent, tant avec les exemples bibliques que dans ma propre vie, c'est que Dieu nous rend participants à ça. Il nous rend participants à cela. On est rarement juste spectateur de ce que Dieu fait comme un cadeau qui tombe du ciel tout seul. même si Dieu peut le faire, il est tellement puissant qu'il peut faire arriver quelque chose alors que personne n'aurait même prié pour ça ou qu'on ne serait pas prêt. On n'est pas prêt, Seigneur. Non, on veut être prêt, on le désire. Dieu, il ne dépend pas juste de nous. Mais souvent, il nous rend, la plupart du temps, participants et acteurs pour décrocher les promesses qu'il a pour nous. Par exemple, la Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est traduit « cœur » et ça donne l'impression de chercher le Seigneur avec son petit cœur, puis on est content. Mais en fait, ce mot « lebab », pas confondre avec « kebab », ça n'a pas forcément la même profondeur ou signification. Mais ça veut dire homme intérieur, esprit, volonté, cœur, âme. Mais ça veut aussi dire, la racine du mot, ça veut dire notre penchant, notre détermination. Ce mot traduit par cœur veut aussi dire à la base le siège des appétits, le siège des émotions, des passions, le siège du courage. C'est intense, c'est à fond, c'est plus qu'un bon verset qui va très bien pour le calendrier chrétien de l'année. Mais c'est chercher Dieu avec détermination, avec courage, avec appétit, avec émotion, avec passion. Autrement dit, on pourrait se dire, est-ce que tu as envie de vivre des choses fortes avec Dieu ? Ben, cherche-le, cherche-le, cherchons-le. Et c'est comme ce fameux verset aussi hyper connu de Matthieu 7,7 qui dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Donc pour trouver, pour vivre ces choses, il faut chercher. Des fois, il faut gratter, il faut creuser jusqu'à ce qu'on trouve de l'eau. Et quand l'eau ne vient pas, on continue, on creuse, on gratte. Et pour que les portes s'ouvrent, ben, il faut frapper. Et c'est plus que juste un petit... Des fois, il faut frapper, il faut vouloir. De tout son cœur, on a dit avant. Pas juste on a peur de réveiller ceux d'en dessus. Pour décrocher les promesses, les exaucements, il faut demander, parfois avec hargne, avec persévérance, avec détermination, avec passion. C'est ça, de tout son cœur. Alors nous, on dit de tout son cœur parce qu'on connaît ce verset. Mais ça veut dire de toute son énergie, de tout son être, à fond, entièrement. Comme ce mot, le bab, avec tout ce qui est dans le siège de nos émotions, le siège de nos passions, le siège de notre courage. Entièrement. Et c'est quand on le désire tellement ardemment que finalement on décroche aussi ses promesses et ce pays promis, comme cette femme qui insiste auprès de Jésus, elle voulait même les miettes, tellement elle avait faim, elle voulait juste les miettes. Alors ça, c'était juste un peu l'intro. Mais pour commencer, j'aimerais vous partager une vision que j'ai reçue là récemment, et je développerai mon message aussi suite à ça, mais avant ça, j'aimerais juste prier pour que Dieu nous ouvre nos yeux, nous parle par rapport à cette vision. Et Seigneur, je te prie ce matin que tu viennes parler à nos cœurs, tu l'as déjà fait pendant la louange, par différentes pensées, Seigneur, par cette pluie qui continue de tomber, Seigneur, sur nous maintenant. Et je te prie, Seigneur, de venir réveiller nos vies. Libère vraiment ta révélation. Libère la révélation du Saint-Esprit, libère ce qu'on puisse comprendre et saisir ce que tu as envie de nous dire ce matin. On n'est pas venu recevoir une information qu'on peut trouver dans un livre ou autre, mais on est venu pour être touché et rencontré par toi, pour entendre des paroles de vie qui nous amènent de l'avant, qui nous propulsent de l'avant, qui nous transforment et qui nous touchent. Alors viens parler à mon cœur, viens parler à nos cœurs, Saint-Esprit, et on veut accueillir ta révélation. Viens saisir nos vies. Et je vais vous partager cette image que, si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez, pour vous plonger dans cette vision ou pas, chacun fait comme il pense. Et j'avais cette vision, je voyais une personne qui marchait les mains dans les poches sur un chemin. Et voilà que sur ce chemin, ben, c'était le bon chemin. Elle s'approche du Seigneur qui arrive à sa rencontre et puis qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le personnage de répondre « Eh bien, j'avance sur le chemin de la vie. Je viens à toi. » Et le Seigneur de lui répondre, « C'est bien, tu es au bon endroit. Tu es sur le bon chemin. Par contre, as-tu entendu le son de la trompette ? Sais-tu que nous sommes dans une guerre et qu'un combat fait rage ? Un combat qui cherche à te rendre inactif, mais surtout un combat qui essaye de détourner le peuple entier du chemin. Un combat qui fait rage aussi face à ceux qui sont hors du chemin et qui se perdent. Ils se font massacrer. C'est bien que tu aies la paix, mais ma trompette a retenti. C'est le temps de sortir les mains de tes poches, c'est le moment de te battre. de te battre, pas juste pour arriver à moi, mais accompagné de fils, de filles, de frères, de sœurs, de rescapés, de blessés guéris. Saisis l'autorité que tu as reçue et lève-toi pour briller, pour libérer mon peuple, libérer les captifs. Engage-toi dans ce bon combat de la foi. Bien sûr, je te fais reposer dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Mais si je te restaure, si je te donne des temps de repos, de paix, c'est pour établir ce repos et cette paix dans ton âme, dans ta vie, pour établir la douceur de ma présence en toi, afin que rempli de cette paix, rempli de cette douceur, rempli de mon amour, tu répondes au son de la trompette et que tu te lèves pour faire avancer mon royaume. Moïse l'a fait. Son cœur a été saisi de compassion pour son peuple et il s'est investi corps et âme pour le libérer. Le bon berger également, il a quitté le confort du ciel pour venir sauver l'humanité. Et il est également allé jusqu'à donner sa vie, c'est-à-dire son temps, son énergie, ses forces et même sa vie pour sauver la brebis perdue. Comme les disciples et apôtres qui se sont investis jusqu'au bout pour que le royaume de Dieu et la lumière se répandent et impactent le monde. Et dans la suite de cette vision, de cette parole, c'est comme si je voyais la scène où l'apôtre Paul, Saul de Tarse à l'époque, il était touché sur le chemin par la lumière du Seigneur. Et il marchait probablement pas les mains dans les poches, mais il combattait le mauvais combat, lui. Et Dieu l'a appelé non pas juste à arrêter et à se reposer, mais il l'a investi, il a été investi d'une mission et il s'est engagé dans un combat qui a grandement participer à ce que le royaume de Dieu se répande en Europe et dans le monde entier et perdure encore aujourd'hui. Voilà cette pensée, cette vision que je voulais simplement partager au départ. Je me suis dit, mais est-ce que c'est approprié? Mais ça résonnait dans mon cœur, ça me parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et ça, c'en est une. Et ça me parlait vraiment. Je sens que ça résonnait vraiment dans mon cœur et que Dieu presse dans ce sens. Alors cette vision, ce n'est pas premièrement un appel à aller évangéliser dans la rue, même si Dieu nous amène aussi à vivre des temps comme ça. C'est une des facettes de l'appel que Dieu peut nous donner, mais c'est un positionnement. C'est une attitude et une mentalité que Dieu veut toucher et transformer en nous. Et ce matin, comme je le dis souvent, je me prêche d'abord à moi-même, comme ça je suis au moins sûr qu'il y a une personne qui réponde à l'appel à la fin. On veut le réveil, on l'a chanté. Et je crois que c'est un message de réveil. Mais un message de réveil, c'est comme le réveil matin, le matin. Des fois, ça pique un peu quand ça sonne. Des fois, on n'aimerait pas qu'il sonne. Ce n'est pas juste quelque chose d'agréable. Des fois, ça pique un peu. Et puis, on tape dessus. Le réveil, ce n'est pas forcément juste une nuée qui tombe soudainement, comme ça. Même si ça peut. Et gloire à Dieu si ça se fait. On a déjà vécu des trucs du genre, complètement fous, physiques, de gloire de Dieu qui descend. Et c'est fantastique quand on le vit et j'aimerais en vivre davantage. Mais souvent, le réveil, c'est quand Dieu touche nos vies. Et le mot que j'entendais de la part de Dieu pour ce message ce matin, c'est le mot conquérant. Conquérant. Et c'est dans la suite un peu de cette vision et aussi de ce cœur déterminé que je partageais dans cette première vision. Et conquérant, c'est pas partir la fleur au fusil en se disant « ouais, faut y aller, alors on y va ». C'est pas non plus tomber dans l'activisme et puis le faire. Parce que je suis le premier convaincu, et si vous m'avez déjà entendu plusieurs fois prêcher, vous me connaissez, si je pouvais prêcher sur la grâce de Dieu à chaque message, je le ferais, à chaque prédication. Dieu a déjà tout payé pour ma vie, pas juste 99%, et puis il attend que je fasse le pourcent qui reste, que je fasse encore un pas pour lui. Non, il a fait tous les pas, j'ai qu'à recevoir. Son salut, c'est cadeau, un cadeau total. Sa bonté, sa bénédiction, c'est cadeau, c'est cadeau immérité. Sa guérison ou sa délivrance, c'est cadeau. Ce n'est pas un résultat de mon labeur. Je suis un convaincu de la grâce. Dieu ne va pas m'aimer plus si je fais plus. Il m'aime déjà entièrement d'un amour total. Moi, j'aimerais être une Marie qui se prélasse dans la présence de mon Seigneur et pas une Marthe qui s'active, qui fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Donc ce matin, je veux fonder ce message sur un fondement de grâce, un terrain de grâce que vous chérissez sûrement aussi. Et c'est une grâce sans bémol, c'est une grâce totale. Ce n'est pas un bémol que je rajoute. Mais le mot qui résonnait à mon cœur, c'est le mot conquérant. Et être conquérant, c'est vouloir aller plus loin encore et encore. Et pas se laisser arrêter par les circonstances de la vie. C'est chercher, c'est frapper, c'est creuser, comme on a vu ces versets en introduction, c'est prendre du terrain. C'est une attitude, un état d'esprit, une volonté de relever des défis, d'être résilient, d'être déterminé. Et vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé de Josué dans mon dernier message, lorsque Dieu parle à Josué, il lui dit dans Josué 1:9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, donc n'aie pas peur. » On a chanté par rapport à cette peur. « Ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Il le lui dit alors qu'en fait, il se trouve juste devant le pays promis. La promesse de sa vie, elle est là, juste devant lui. La promesse de tout un peuple, elle est là, juste devant eux. Mais pour recevoir ce pays fantastique où coule le lait et le miel, avec des fruits tellement abondants, juteux, grands, qu'il faut être deux pour porter des grappes, tellement c'est abondant et une bénédiction, ce pays qui va être leur terrain, leur bénédiction, un vrai cadeau de Dieu, pour que Josué et le peuple vivent ce pour quoi ils aspirent et prient sûrement depuis des années, ils vont devoir être conquérants. Pourtant, c'est là, mais ils vont devoir être conquérants. Pourtant, c'est une promesse. Pourtant, ce pays, il n'est pas mérité, mais c'est un cadeau de Dieu. Il ne va pas tomber tout seul. Ils vont devoir comme cravacher pour le saisir. Ce pays était le pays prophétisé par Dieu, promis par Dieu. C'est un cadeau. Pourtant, il a fallu une mentalité de conquérant pour s'en emparer. Et je vous avais parlé des espions, c'est Josué et Caleb qui ont été conquérants. Ils n'étaient que deux sur les 12, à ne pas se laisser décourager, à ne pas voir juste le négatif, parce qu'ils avaient un esprit différent, qu'il a dit, un esprit différent. Et je suis convaincu ce matin que Dieu désire venir titiller notre état d'esprit et faire de nous des conquérants. Il vient titiller notre état d'esprit. C'est ça un peu, un esprit de réveil, c'est comme ça. C'est comme si votre voisin qui est juste derrière vous, avec le stylo, il vous picote un peu le dos pour vous réveiller. Bien sûr, fondé sur cette grâce. C'est ça un esprit de réveil. Et je crois que le réveil, c'est pas juste des grâces qui tombent du ciel, mais c'est nous qui sommes réveillés par le Saint-Esprit. C'est ça le réveil, c'est quand je me réveille. C'est quand quand on ne presse pas juste sur snooze ou bien encore 5 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, mais à un moment donné, on se lève. Le réveil, c'est quand c'est pas juste le son qui retentit, c'est quand moi je me lève. Afin que les promesses qu'il a pour ta vie, qu'il a pour cette église, qu'il a pour cette région, s'accomplissent. Et en Suisse, on est facilement consensuel, en un seul mot. C'est-à-dire de trouver un accord, un compromis qui amène à un contentement pour tout le monde. Déjà par notre culture, on n'est pas forcément conquérant à la base. Parce que si on a une armée dans notre pays, ben déjà c'est uniquement pour défendre et puis c'est pas pour attaquer ou conquérir. Alors je ne fais pas de politique ce matin, je pense que c'est très bien, enfin, je n'ai pas forcément réfléchi là-dessus récemment, mais je n'ai pas forcément envie non plus qu'on envahisse le Liechtenstein. Je crois que ça suffit comme ça. Mais notre armée, elle est uniquement défensive. Même pour ça, on a des super avions pour nous défendre, en tout cas pendant les heures de bureau. Et puis, donc l'armée, elle est là pour sauvegarder notre pays, notre terrain, nos acquis, ce qui nous appartient. Et cette notion, je pense que ça peut être ancré jusqu'au plus profond de nous et peut-être même toucher notre mentalité et notre façon d'être. Même spirituellement, ça peut influencer, en tout cas c'est ambiant, notre façon d'être. Et le fait que si on combat, ça va être pour défendre notre foi, notre vie, dans le sens de garder nos acquis, d'empêcher à juste titre celui qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, comme dit la Bible, qui veut venir nous voler, alors c'est bien. Mais du coup, c'est pas forcément pour être conquérant, pour commencer à prendre du terrain, ou à attaquer, ou à s'emparer d'un nouveau pays ou d'un pays promis. Des promesses que Dieu nous a promises. Et on peut facilement se reposer et garder nos acquis. Et en fait, notre vie entière peut être faite pour garder notre salut, ou pour rester en feu, ou pour ne pas trop pécher, pas succomber trop à la tentation, pas dévier à gauche ou à droite, ou vouloir garder notre appel, notre conversion, garder notre mariage, garder notre famille. Mais est-ce c'est tout, c'est bien ces choses. Mais est-ce qu'on est conquérant pour plus? Pour plus, ce n'est pas juste pour défendre et garder. Est-ce qu'on est conquérant pour plus que nos acquis? Et c'est là, en fait, que cette mentalité qui vient de notre culture suisse, qui est bien, mais elle peut aussi être négative. Et souvent, dans les entretiens qu'on a avec les gens, souvent, on leur dit, ben, on a tous un héritage de sang avec nos parents et plusieurs générations qui sont super, où il y a des bonnes choses, on les saisit. Et des fois, il y a des choses moins bonnes qu'on doit prendre autorité ou couper. y a des malédictions ou bien des façons de faire qui ne sont pas forcément bien, qu'on renonce, qu'on brise au nom de Jésus et on coupe vraiment des malédictions qui se reproduisent de génération en génération. Et c'est glorieux parce que ça marche. Et je pense que si on le vit au niveau personnel, quand on se laisse transformer en tant que personne, je pense que ça peut être aussi le cas au niveau des l'héritage. En Suisse, c'est fantastique, il y a plein de choses qui sont géniaux au niveau de notre pays. Mais je pense qu'il y a aussi des héritages à briser. Briser peut-être une part d'héritage spirituel, une mentalité passive, c'est-à-dire une sorte de neutralité non conquérante, une sorte de passivité, un peu cette image des mains dans les poches. Alors on a aussi un héritage à prendre parce qu'avant peut-être d'être neutre, les Helvètes étaient connus avant pour être d'excellents combattants. Ils étaient même engagés pour aller dans d'autres guerres ailleurs. Ça, c'est autre chose. Mais Dieu nous appelle vraiment à être conquérants, donc spirituellement parlant, à ne pas être neutre, à ne pas être pacifique. Et dans le combat non plus, pas à être juste défensif. Et je crois que l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, elle n'est pas juste destinée à se défendre quand l'ennemi vient, rôde autour de nous, puis veut nous mettre de la tristesse, de l'abattement, ou nous attaquer par la maladie. Alors tout à coup, on va chercher l'arsenal dans l'armoire, puis on va se battre. Le combat de la foi, il n'est pas juste, défensif, mais il est absolument offensif. Il est aussi pour être offensif et prendre du terrain, gagner du terrain, aller de l'avant. Et c'est 2 Timothée 1,7 qui nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et ici, quand il est parlé de ça dans ce verset, ce n'est pas une question de tempérament, où il ne faut pas être trop timide, pas trop introverti, pas trop extraverti non plus, mais arrête ce... Non, le mot grec « deilia » traduit par timidité, ça signifie crainte, timidité, frayeur, lâcheté. Autrement dit, ce n'est pas une mentalité de peur, on en revient à ce qu'on a vécu avant, pas une mentalité de peur, de frayeur, mais même pas une mentalité de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force. Et le mot force qui est utilisé, dynamis, c'est le même mot que puissance. C'est d'ailleurs le même mot que dans Actes 1,8 où il est dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Une force, c'est ça. Pas un esprit où on a peur, mais un esprit de force. Diane parlait, il y a toujours un échange. S'il prend notre peur, c'est pour nous donner un esprit de force, esprit de puissance, une mentalité de conquête. Parce que la suite de Actes 1,8, quand il est dit qu'il nous donne cet esprit de puissance, c'est pour qu'on soit ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre, toujours plus loin. Si ce n'est pas de la conquête, ça, c'est ça. Ce n'est pas juste une puissance pour sauvegarder ce que Jésus avait planté dans la vie des apôtres pendant 3 ans et qu'il devait garder. Peut-être qu'il disait, il nous a enseigné, montré plein de choses pendant les 3 ans de ministère. Les apôtres, il ne faut pas qu'on perde ça puis qu'on puisse transmettre fidèlement. Non, il fallait aller plus loin. Il fallait être conquérant. Autrement dit, Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit craintif, lâche, mais un esprit conquérant. Évidemment, comme ça a été dit aussi dans le verset d'amour et de sagesse, il faut que ça soit, c'est fondamental, il faut que ça soit rempli aussi d'amour et de sagesse dans la façon de faire, sinon on fait des dégâts. Et la traduction The Message qui nous donne, si on transpose en français, Dieu ne veut pas que nous soyons timides avec ses dons, mais que nous soyons audacieux, aimants et sensibles. Aimants et sensibles. Et il y a un tout, hein, si on est juste audacieux puis qu'on s'en fiche de tout, on va blesser tout le monde. Ce n'est pas ça. Mais audacieux, aimant et sensible. Et cette puissance que Dieu nous donne, c'est pour prendre du terrain. C'est pour prendre du terrain. Et l'auteur conférencier Ziglar a dit, vous avez peut-être déjà entendu, votre attitude, plus que vos aptitudes, détermine votre altitude. Donc votre attitude, qui on est, notre mentalité, plus que nos dons, plus que nos outils, va déterminer notre altitude. C'est-à-dire à quel niveau, à quelle hauteur on va de l'avant. Et cette attitude déterminée et conquérante nous fait prendre de la hauteur aussi. Et peut-être pas nous achoper sur les petits obstacles ou les choses qui veulent nous arrêter tous les jours. Être conquérant, par définition, c'est pas juste garder nos acquis, mais c'est prendre du terrain. C'est-à-dire prendre des nouveaux terrains. Prendre des nouveaux terrains, être conquérant. Et ce matin, j'avais envie de parler, il y en a d'autres, mais de 3 territoires à conquérir, 3 territoires à conquérir, entre autres. Et le premier territoire, pour moi, c'est le territoire intérieur. Le territoire intérieur. c'est-à-dire être conquérant de l'espace pour Dieu dans ma vie. La Bible dit qu'on est des temples, donc il y a de l'espace en nous pour Dieu. Mais si ma vie, elle est déjà remplie, qu'elle est déjà pleine, est-ce que ça va être, si je veux plus de place pour Dieu en moi, est-ce que ça va être au détriment des autres choses qu'il y a déjà ? Oui et non. Alors, ce n'est pas une réponse suisse, hein, parce qu'on ne la veut pas, mais oui et non. Parce que oui, dans le sens que ça va être au détriment de certaines choses dans ma vie. Il suffit de regarder son agenda, et puis on verra ce qui compte le plus dans notre vie. On peut regarder notre décompte en banque, on verra ce qui compte le plus. On peut regarder notre historique d'ordinateur ou de télé ou tant d'écrans smartphone et on verra ce qui compte le plus. Donc oui, plus de place pour Dieu dans ma vie, ça va être au détriment de certaines choses. Pour avoir plus d'espace. Mais non d'un côté, parce que j'ai tellement envie de Dieu dans ma vie, que j'en veux tellement plus, je veux plus que l'espace juste qui reste. Et en fait, avec 40 à 70 heures de travail par semaine, plus les heures de sommeil, plus les heures de repas, plus les heures de toilette-douche, plus les heures de ménage, et je n'ai même pas parlé des loisirs, c'est des choses indispensables. Tu ne peux pas arrêter de manger, tu ne peux pas arrêter d'aller aux toilettes, sauf si tu arrêtes de manger. Tu ne peux pas arrêter de travailler ou de dormir. Et pourtant, je ne veux pas juste que Dieu ait le reste, parce que ça fait quand même beaucoup si on fait tout ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui. Je n'ai pas envie que Dieu ait juste les restes. Et c'est là que je peux être conquérant, pas forcément au détriment de ce qu'il y a déjà, mais en vivant Dieu dans tout ce que j'ai et dans tout ce que je fais. En vivant Dieu dans tout ce que je fais. Et pas juste lui dégager plus de temps, même si c'est bien aussi et il le faut. Dans mon travail, je peux être intentionnel et vivre Dieu dans mon travail, le remercier pour les succès, lui remettre les défis, les tâches ingrates ou lui remettre les challenges. Vivre ce travail avec lui en moi, et là je peux être conquérant. Davantage intégrer Dieu dans mon travail. Je peux être conquérant pour Dieu dans mon sommeil, mes heures de sommeil. Et réaliser que c'est un temps voulu de Dieu qui va me donner d'être en meilleure forme, mais aussi peut-être en meilleure forme spirituelle dans le combat le lendemain. Et je ne veux pas laisser ce temps être bafoué, peut-être le soir, par des loisirs, des séries, des jeux, je ne sais pas. Le vivre avec Dieu, lui remettre ses nuits, qu'elles soient profitables, que peut-être que Dieu nous parle, en tout cas qu'il nous restaure. Moi, je rêve quasi jamais. Et Dieu me parle en général autrement que la nuit, mais ces dernières années, là où il m'a parlé de façon la plus forte et significative, c'était pendant la nuit, de façon très claire. Et je veux être conquérant dans ma vie, conquérant peut-être dans mon travail, dans ma vie intérieure, dans mon sommeil. Je désire conquérir des territoires d'intimité. Je désire tellement entendre Dieu davantage. Je ne sais pas si vous avez aussi envie d'entendre Dieu plus et plus précisément, et le laisser me guider dans mes actions, dans mes déplacements, et pas juste vivre un temps fort, mais un dialogue. Quand on voit Moïse, comme il parlait avec Dieu, je vous ai déjà parlé de ça récemment, mais c'est tellement frappant. Dieu lui dit, tu diras qu'il y aura une pluie de grêle demain à la même heure. Et puis lui, il le croit, il va vers le pharaon, puis il lui dit, tu sauras, peut-être qu'il tutoyait ou vous voyez, je ne sais pas, monsieur le pharaon, demain il y aura une pluie de grêle demain à la même heure. Il entend Dieu de façon claire et précise, il le croit, il l'annonce. Parce que pour lui, c'est clair, ce n'est pas confus. Et il a bâti sa vie sur sa relation avec Dieu, sur ce qu'il a entendu, c'est ce territoire intérieur qui est établi et fort. Et moi, je désire gagner du terrain dans ma vie intérieure avec Dieu, c'est-à-dire dans ma consécration, dans ma sainteté. Ne pas être juste sur la défensive, en me disant, en priant, « Seigneur, garde-moi des tentations, garde-moi des mauvaises pensées, oh, je passe trop de temps à ceci, ou il faut que j'arrête cela. » C'est bien de le prier, puis de demander à Dieu la force. Mais avec ça, on va essayer de défendre un territoire. Or, le meilleur moyen d'avancer, c'est d'être conquérant. Et d'attaquer plutôt que juste de défendre des bonnes choses en nous. Et comme on dit en sport, et souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est comme un jardin. Tu peux passer ta vie à désherber les mauvaises herbes. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre le temps de semer des bonnes choses qui vont aussi prendre la place. La nature a horreur du vide. Quand tu laisses le vide, il y a plein de choses qui viennent. En tout cas dans un jardin, mais dans nos vies aussi. Si on laisse du vide, à un moment donné, il y a plein de choses qui vont venir aussi. Et si je fixe, et il y avait un message de Diane là-dessus, intentionnellement mes pensées sur ce qui est juste et honorable, sur ce que Dieu veut, il y aura moins de place pour ce qui est mauvais, le doute, les pensées négatives et le découragement. Et je veux être proactif et pas juste être réactif. Et l'idée n'est pas juste d'être défensif en ôtant ce qui est mauvais, mais en plaçant des bonnes choses. Et c'est Rachel Dufour, qui est pasteur, entre autres, à MLK, qui disait « Tu ne peux pas combattre la chair par la chair ». Parce que ça s'appelle, c'est juste s'autodiscipliner. Alors, effectivement, on ne peut pas juste se restreindre et puis défendre notre vie intérieure, mais il faut y placer des bonnes choses. Et semer des temps personnels avec Dieu, se nourrir de sa parole, semer des temps de prière. Mais pas juste prier, où on ne fait que de parler. Et puis Dieu, il n'a pas sa place pour parler. Non, mais un dialogue, où à des moments, on se tait. C'est comme dans un jardin, vous semez, puis à un moment donné, vous laissez la pluie descendre. Et puis des fois, quand on parle à Dieu, on fait silence, puis on le laisse juste aussi répandre sa pluie, puis nous parler. Parce que c'est un combat par l'esprit et non par la chair. Et même si Dieu ne veut pas qu'on se batte au niveau de la chair, et puis qu'on veut être vraiment pleinement dans la grâce, il y a une mentalité conquérante à avoir pour que notre espace intérieur pour Dieu grandisse. Et je pense qu'il y a encore du terrain à conquérir en moi. Et j'aime bien 1 Timothée 4, 7 qui nous dit « Rejette les contes profanes de vieilles femmes et exerce-toi plutôt à la piété. » Et puis si on dit ça dans un français qu'on comprend, c'est marqué « Restez à l'écart des histoires stupides qui se déguisent en religion. Faites des exercices quotidiens en Dieu. » Pas de mollesse spirituelle, s'il vous plaît. Restez à l'écart de ces histoires stupides qui se déguisent en religion, mais faites des exercices quotidiens avec Dieu. Après, c'est pas de mollesse, soyez pas neutre, soyez pas mou. Conquérir des nouveaux terrains en Dieu. Pour moi, ça c'était le premier territoire. Le deuxième que je vois, c'est l'Église. Le territoire, c'est l'Église. Et je vois comme deux volets. Je vois moi dans l'Église, puis je vois l'Église en tant qu'ensemble, elle-même. Moi, dans l'Église, j'ai envie d'être conquérant. L'Église, c'est une famille, c'est une équipe. Et ensemble, on a un but. Le but de l'Église, c'est vraiment qu'on puisse être bouillant. C'est d'être une lumière pour le monde. Alors, le territoire à conquérir, il est déjà personnel. C'est être plus brillant, être plus bouillant. C'est comme dans une équipe de sport. Si on désire que l'équipe de sport elle ait une meilleure condition physique, bien sûr qu'il y a l'exercice tous ensemble, mais ça commence par la condition physique de chaque joueur. Et si chaque joueur est meilleur physiquement, toute l'équipe sera meilleure en condition physique. Et moi, j'ai envie d'être conquérant et aider l'équipe, aider l'Église à être plus réveillée encore en me réveillant moi-même. Et si on travaille tous sur le fait que Dieu réveille nos vies, l'Église va être réveillée. Je peux évaluer comment c'était la louange, le message, la participation ou tel et tel. Mais pour qu'il y ait davantage de passion, davantage de vie et être conquérant, je vais faire quoi? C'est comme dans une torée, un foyer. S'il manque du feu, je vais rajouter une bûche, je vais mettre du bois. Et Dieu nous appelle des fois, ben donne-toi davantage pour que ça brûle. Et je me souviens avoir prié il y a bien des années, au tout début, quand j'étais à l'école biblique, je disais « Ah Seigneur, j'aimerais plus de ceci ou de cela dans l'Église, agis plus, fais ceci, fais cela. » Et je me souviens encore de ces mots du Seigneur qui disaient « Fais que ça change, fais que ça change. » Je peux gagner du territoire en priant pour l'Église, en priant pour les prochaines échéances, les prochains événements, les prochains cultes, ou jeûner un repas pour le dimanche. Ça casse toute une mentalité de consommation. On porte avec, plutôt que de voir qu'est-ce qu'on nous a préparé. Je peux gagner du terrain en m'impliquant, en servant, en donnant de mon temps, en donnant de l'argent, en donnant de la passion, en m'impliquant, en me levant dans ce que j'aime, en retroussant les manches là où il y a des besoins. Ma contribution, je vais être conquérant intentionnel. Par exemple, je vais calquer mon agenda en fonction de la vie d'église et pas la vie d'église en fonction de mon agenda. L'église, c'est ma famille, j'aime ce qui s'y vit. Et c'est là que je veux construire, en tout cas pour ma part. Alors je peux aller, et c'est bien, je peux aller à gauche, à droite, me ressourcer. C'est génial parce qu'il y a de quoi remplir mon agenda entier en Suisse romande. Et moi, j'aime bien le faire. Moi, le premier, c'est bien. Où il y a d'aller se rafraîchir, là où il y a du rafraîchissement. Mais là où on grandit vraiment, c'est là où on plante nos racines. C'est là qu'on plante des racines et que le fruit vient. L'Église, ce n'est pas premièrement des cultes, des groupes, mais c'est des gens. C'est toi, c'est moi, c'est l'autre qui est assis derrière, à côté de toi. Et je peux recevoir une pensée, une parole, je peux prier pour l'autre, je peux envoyer un petit message d'encouragement quand il a un besoin ou quand il n'a pas de besoin, juste parce que tu as une pensée et que tu veux le bénir. Comme dit Hébreux 10, 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des bonnes actions. » Et c'est le verset que ça continue en disant de ne pas abandonner notre assemblée, mais de s'encourager mutuellement, c'est-à-dire s'encourager les uns les autres, se booster. C'est un terrain à conquérir. et je peux gagner du territoire en tissant des liens, en investissant dans les relations, en prenant à cœur l'autre, ce terme qu'on aime, qui est un peu vieux, mais quand même une réalité, mes frères et sœurs de la famille. Et ça, c'était le volet, être conquérant moi-même, personnellement, dans l'Église. Mais dans ce terrain à conquérir, je vois aussi l'Église ensemble, en tant qu'équipe, et l'Église elle-même, c'est-à-dire nous, ensemble, d'être conquérants. Ce n'est pas juste rester sur nos acquis, mais grandir, prendre de l'ampleur. Et je viendrai plus tard avec le troisième territoire qui est de toucher le monde. Mais l'Église, c'est être conquérante, c'est comme personnellement, ça commence déjà intérieurement. C'est davantage de vie de prière, c'est davantage de présence de Dieu, c'est davantage de Dieu dans nos programmes, activités, davantage de foi, davantage de surnaturel, d'action de Dieu, davantage d'amour, davantage de conversion, davantage de guérison, davantage de vie transformée. Et il y a du terrain à conquérir, on n'a pas encore fait le tour. Il n'y a pas juste le Liechtenstein à prendre encore, il y a du terrain, il y a de la marge. On est qu'au début de ce que Dieu veut faire ici. J'en suis convaincu. Et être conquérant, c'est désirer ça en tant qu'Église et personnellement, et s'y impliquer. Ensemble, on veut plus. C'est ça, l'Église passion. Ce n'est pas une Église où il y a déjà tout, mais c'est un groupe de gens qui en veut plus. Un groupe de gens qui en veut plus. C'est ça, être conquérant en tant qu'Église. Réaliser qu'on n'a pas fait le tour, qu'on n'est qu'au début, mais qu'il y a des choses nouvelles dans lesquelles on veut rentrer et être intentionnel pour plus. Et le troisième territoire que je voyais, c'est être conquérant dans le monde. Le territoire, c'est le monde. Et là, le terrain à conquérir, il est énorme. Il est énorme. Je peux être neutre ou même sur la défensive et garder mes acquis, empêcher la mentalité du monde d'envahir ma vie, ma famille, d'entrer dans l'Église. Et la mentalité du monde, on la connaît. La réussite personnelle, le succès, moi d'abord, l'immoralité, plus de normes. L'individualisme, la comparaison, et ainsi de suite. Mon but, ce n'est pas de décrire le monde, mais qu'on fixe nos yeux sur ce qui est juste et honorable. Mais en étant conquérant, je vais être intentionnel et gagner du terrain. Déjà, le monde, ce n'est pas premièrement le mal, c'est avant tout des gens. C'est avant tout des gens. Et je vais être conquérant et toucher les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne peux pas juste vivre sans être affecté par les gens qui travaillent avec moi, ou les gens de ma rue ou de mon immeuble. Puis de me dire que s'ils font un accident de voiture, puis qu'ils meurent ce soir, ils vont en enfer. Je ne peux pas juste être tranquille avec ça. Imagine, tu arrives dans l'au-delà en même temps que ton voisin, devant le carrefour. Puis Dieu te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Puis l'autre, ce n'est pas ça qu'il entend. Puis qui te dit, mais tu aurais pu me dire. Tu étais au courant, tu savais. Je veux être conquérant, c'est-à-dire m'impliquer pour que la vie passe au travers de moi, en priant, en étant un témoignage de vie déjà, en faisant envie. Et ça aura ouvert un terrain pour peut-être parler au bon moment. Si on commence par parler, on fait fuir, pas seulement l'ennemi, mais les gens aussi souvent. Mais en priant, en étant rempli de la vie, en étant rempli d'amour, de compassion, ça se dégage. Et le fruit est mûr pour parler à un moment donné. Quand c'est le bon moment. 1 Timothée 2 nous dit « Avant tout, je recommande ceci, il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. » Verset 3, voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Seigneur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Et Dieu désire conquérir le cœur de chaque personne qui nous côtoie. Et le monde, c'est aussi des idées, c'est aussi des valeurs. C'est ce qu'on entend et qu'on voit quand on met la télé en marche. Et je ne vais pas juste défendre mes valeurs tant bien que mal, si j'y arrive. Et Dieu sait si c'est compliqué. Ce n'est pas évident aujourd'hui. Mais je vais sans autre, peut-être aussi, pouvoir démontrer que je crois à des valeurs. Et pas juste rien dire et rester neutre quand les autres parlent de leurs valeurs. Et pas juste défendre ou contre-attaquer. Moi, je crois que les débats, ils sont souvent inutiles. Ils ne portent souvent pas de fruits. On perd du temps dans les débats. C'est Luc Dumont qui nous parlait aux responsables de combats inutiles. Et souvent, c'est des combats inutiles de rentrer dans des débats. Mais être conquérant en ne cachant pas déjà les bienfaits et les valeurs, la valeur de mes valeurs, la valeur de mes valeurs, la valeur de la fidélité, elle est fantastique, la valeur de la famille, la valeur d'être honnête, d'être droit, la valeur d'entraider l'autre, c'est des magnifiques valeurs. Il n'y a pas besoin de les cacher. Je ne suis pas obligé de contrer les valeurs ou l'immoralité des autres, mais je peux afficher mes valeurs et de montrer quel est le bienfait de ces valeurs-là, de croire à ces choses. Et plutôt que de dénoncer, je vais énoncer. J'énonce en quoi je crois et désire vivre, plutôt que de dénoncer et de dégommer tout ce qui bouge ou tout ce qui ne va pas. Je crois au mariage, je crois dans la famille, je crois dans l'entraide. Parfois, il faut prendre position. Un qui a été neutre dans la Bible, c'est Pilate. Pourtant, il a vu que quelque chose se passait. Il a vu que Jésus, ce n'était pas qu'un être humain. Mais il n'a pas osé prendre position pour Jésus. Il s'en est lavé les mains, comme on dit. Il a choisi de suivre la voie de la moindre résistance plutôt que de défendre la vérité avec le prix que ça aurait coûté. On voit ça dans Matthieu 27. Et les traditions chrétiennes ou les apocryphes suggèrent que Pilate a connu une fin tragique marqué par la culpabilité, la punition divine. Et ces récits ne sont pas vérifiables, et puis ce n'est pas la parole de Dieu, donc je mets 53 bémols, contrairement à la grâce, à ça. Mais quand on ne prend pas position, et je pense qu'il ne s'est pas démarqué clairement. Et je pense qu'à un moment donné, on n'a pas forcément à prendre position pour être contre tout ce qui bouge, mais pour être pour ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Et on peut s'impliquer dans ces territoires du monde. Et ça, c'est un message en soi. Dieu peut nous appeler à être conquérants, gagner du terrain dans le social ou dans l'art ou dans la santé. Pourquoi ça serait juste le New Age qui aurait le monopole des petites graines, etc. Ils ont tout pris, tout ce qui était hors scientifique, ou dans les idées, ou dans la politique, ou dans le business. Ça, c'est un message sur le royaume de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parlais aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de terrain à gagner. Être conquérant, ce n'est pas juste empêcher le monde de toucher ma famille, de toucher mes enfants, de toucher mon église, de toucher ma vie. Mais c'est toucher le monde avec la vie qu'il y a en moi. C'est toucher le monde avec la vie qu'il y a en moi. Et si je suis rempli de vie, ça se sent. Si tu fais une grillade sur ton balcon, tes voisins vont être au courant. S'il y a le feu de Dieu dans ta vie, c'est vraiment du feu. Les gens vont... C'est comme la bougie qu'on a dû éteindre avant parce qu'on s'est dit que ça allait mettre le détecteur de fumée en marche. Moi, j'espère que les détecteurs de fumée clignotent autour de moi parce que ça fume, parce que ça brûle. Et pour conclure, j'aimerais dire que c'est ce matin, ce message, ce n'est pas un message équilibré en 3 points puis 45 sous-points, même s'il y avait 3 territoires, mais c'est pour amener une mentalité. Une mentalité de gagnant, pas juste de réussite personnelle, comme les librairies entières sont remplies de livres pour réussir sa vie, et peut-être même les librairies chrétiennes pour réussir son ministère et avoir du succès dans son appel. Non, mais une mentalité de gagnant et de conquérant, et pas juste une mentalité de persécuté, de l'incompris, du pauvre petit troupeau, du chrétien complexé ou même gêné par sa croyance et par ses valeurs ou par les interdits qu'on croit avoir. Et pour finir, moi j'ai été scotché par Gédéon dans ma lecture l'autre jour. Ils étaient trop pour conquérir le monde. Ils étaient 32 000 pour combattre l'ennemi, les Madianites. C'est le monde, quoi. C'est énorme. Et Dieu parle à Gédéon pour réduire ce nombre. Et finalement, ils vont être que 300 et ils vont gagner. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas forcément le nombre qui compte, mais c'est d'être passionné, c'est d'être en feu, c'est surtout d'y croire. Comme Josué et Caleb, qui avaient un autre esprit, l'esprit de Dieu, un esprit conquérant. Et dans le cas de Gédéon, ce qui a fait la différence, c'est 300 conquérants. C'est 300 personnes qui avaient vraiment la foi. Ça valait mieux que 32 000 qui ne sont pas tellement engagés, neutres et passifs. Moi, j'aimerais vous dire, ce matin, j'ai envie de faire partie de ces 300. Je n'ai pas envie de faire partie des 31 700 dont Dieu n'a pas besoin pour changer ce pays. Mais j'ai envie de faire partie de ces 300 que Dieu cherche. Et il en cherche sûrement plus. Mais j'ai envie de faire partie de ceux-là qui peuvent faire la différence. 31 700. Sûrement sauvés par grâce, mais les mains dans les poches. Ce n'est pas le nombre qui va changer la région, mais c'est la passion et une mentalité de feu. C'est un groupe de gens qui prient et qui ont des valeurs et qui rayonnent. Ce qui fait la différence, ce n'est pas si on est 20, si on est 200 ou si on est 2000 dans l'Église, mais c'est d'être animé d'un autre esprit, comme Josué et Caleb, comme la petite armée de Gédéon. Et ce qui compte, et j'ai presque terminé, c'est déjà d'avoir gagné et conquis ce territoire intérieur en nous pour être ces intimes qui entendent Dieu, pour faire comme Jésus que ce que le Père voyait faire. Pas plus, mais pas moins non plus. Puis ensuite, c'est d'avoir conquis du territoire en tant que famille spirituelle, en tant qu'Église, d'avoir des liens tissés forts, des amitiés, des connexions. Quand l'un souffre, l'autre souffre avec. Quand un réussit, on célèbre avec. Un lieu de vie où Dieu agit, habite. Et c'est là qu'on va pouvoir, en étant unis ensemble, prendre du terrain sur l'extérieur, sur la mentalité du monde, sur le monde, pour toucher les gens qui sont là. Et Seigneur, ce matin, je te prie que je ne veux pas juste presser sur snooze pour que le réveil matin s'arrête, mais je désire vraiment, Seigneur, que tu viennes réveiller nos vies, que tu viennes réveiller ma vie, et qu'on puisse se défaire de tout héritage spirituel de neutralité, de passivité, de mollesse, ou juste d'être défensif. Seigneur, je ne veux pas faire partie des 31 700, mais je désire être un Gédéon, un homme, une femme, qui est conquérant, qui est intentionnel pour ta vie en moi, pour la famille spirituelle qu'est l'Église et pour le monde qui se perd. Viens réveiller notre tempérament, viens réveiller cette Église, viens réveiller cette région et que ça commence par ma vie. Viens réveiller ma vie. Viens mettre une hargne, un feu pour prendre du terrain qui n'a pas encore été pris. Et je te prie de venir toucher nos vies. Alléluia. Je propose peut-être qu'on puisse se lever pour terminer. Seigneur, on t'a prié qu'on voulait une pluie qui ôte la peur. Et Seigneur, on veut abandonner la peur, l'intimidation. On veut se défaire au nom de Jésus de toute mentalité de neutralité, de passivité, de regarder et de laisser faire au nom de Jésus. Tout esprit de lâcheté, de timidité, de crainte, vous partez au nom de Jésus et on s'en défait. Et on veut se laisser toucher par un esprit de puissance et de force, comme dans Actes 1-8, pour qu'on puisse être ses témoins. Là où on est toujours plus au-delà et être ses conquérants. Et je te prie de venir nous toucher, Seigneur. Transforme nos vies, transforme notre Église, transforme cette région, touche notre tempérament là où il est trop passif. Seigneur, on veut rester sur ce terrain de la grâce, il n'y a rien besoin de faire, on est aimé, les mains dans les poches, on est entièrement aimé. Mais Seigneur, on veut saisir ce son de la trompette et se lever pour toi, afin que tu puisses amener ce réveil. Commence par nos vies et amène ce réveil, Seigneur. Amen.